Bonsoir à chacun et à chacune, bien entendu. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous êtes là, je pense que vous y êtes parce que vous aimez sa parole et que vous voulez continuer à apprendre ou continuer à réapprendre certaines choses, à revoir certaines choses. Est-ce que c'est important de revoir certaines choses? L'apôtre Pierre a dit « Je vous rappelle ces choses car elles sont salutaires ». Alors, on va partir d'un texte sur lequel on va revenir tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 24. Il est parlé du jour où Jésus-Christ va revenir chercher les siens. Et il est dit que, à partir du verset 40, il est dit ce qu'il est écrit. Eh bien voilà, il y a des gens qui seront prêts dans une même famille, dans une même église, dans un même foyer. Nous voyons ce qui est très bien écrit, puisque c'est Jésus qui le dit. Matthieu 24, verset 40. « Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. » Voilà une parole du Seigneur Jésus. « Tenez-vous prêts. » Dans la question que je me dois de nous poser ce soir et celle-ci, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Sommes-nous pas prêts? Il y a des gens dans l'église qui sont prêts, il y a des gens qui ne sont pas prêts. On pourrait séparer l'humanité en deux. D'un côté, il y a les croyants et ceux qui ne le sont pas. Mais dans le groupe des croyants, il y a ceux qui sont prêts et ceux qui ne sont pas prêts. Si vous lisez juste après, dans la parabole des dix vierges, il est dit au verset 10, « Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtres entrèrent avec lui dans la salle des noces. » Donc, il y a ceux qui sont prêts et ceux qui ne sont pas prêts. Donc, ce soir, vous allez savoir si vous êtes prêts ou si vous n'êtes pas prêts. Est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Parce que ce matin, hier, je lisais l'Apocalypse, ce matin aussi, et on voit que pendant qu'il y aura la grande tribulation sur la terre, pendant ces temps terrible où la colère de Dieu va se manifester, l'Église, elle, sera dans le ciel et célébrera les noces de l'agneau. C'est incroyable le paradoxe. D'un côté, la colère de Dieu sur la terre qui va arriver à son paroxysme, et d'un autre, les chrétiens qui seront prêts parce que l'Église s'est préparée. D'ailleurs, on peut le lire. Je sais que vous aimez lire la parole de Dieu. Ne faites pas comme un jour, quelqu'un m'a dit, « Monsieur Gau, on ouvre trop souvent la Bible. » Vous voyez comme si... C'est ce qu'on vient de faire. Bon, Apocalypse 19, verset 7, sans commentaire. Ce que je viens de dire avant. Apocalypse 19, verset 7. On n'est pas dans le temps, on n'est pas dans l'histoire, mais laissez-moi vous dire que je comprends pourquoi il est dit heureux ceux qui assisteront aux noces de l'agneau. Parce que ceux qui n'y seront pas, croyez-moi, ils vont, comme on dit, excusez-moi l'expression, mais ils vont dérouiller parce qu'ils n'auront pas pris le soin de s'occuper de leur âme. Apocalypse 19, verset 7, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. » Regardez au verset 9, l'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Ah ben c'est sûr que quand vous connaissez l'histoire, quand vous connaissez l'Apocalypse, vous pouvez dire « Amen ». Heureux ceux qui participeront aux noces de l'agneau, parce que ceux qui n'y participeront pas et qui voudront être sauvés pendant ce temps-là, lorsqu'ils seront sur la terre, devront l'être au péril de leur vie. Car tout le monde devra recevoir cette fameuse puce électronique, c'est écrit dans la Bible. On est là-dedans, on baigne dedans par l'information, et ceux qui l'accepteront seront définitivement perdus. Donc je peux vous dire que les croyants, les rétrogrades qui ne seront pas enlevés, sauront très bien que s'ils veulent aller au ciel, il faudra qu'ils refusent absolument la marque de la bête. C'est écrit, mais c'est d'une précision totale. Donc, croyez-moi qu'après l'enlèvement, beaucoup de gens se convertiront parce qu'ils n'auront pas pris le temps de faire ce que nous faisons ce soir, à savoir, est-ce que je suis prêt? Alors la meilleure façon de le savoir, c'est de lire cette texte biblique qui nous parle de chrétiens qui ne sont pas prêts. Jésus en parle d'une manière très précise, très sévère, très pointue, lorsqu'il parle à cette reprise. Il n'y a que lui qui utilise cette expression qui m'a fait frémir lorsque je me suis converti, lorsqu'il rappelle à plusieurs reprises, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je ne sais pas ce que vous avez pensé la première fois que vous avez lu cette expression, d'autant plus qu'elle ne se trouve que dans la bouche du Seigneur. Vous l'avez remarqué, il n'y a personne d'autre dans la Bible qui l'utilise. Il n'y a que Jésus, ce Seigneur rempli d'amour et de miséricorde, qui aussi utilise des paroles sévères eh bien, pour nous faire réfléchir. C'est à ce matin encore, je lisais quand Paul dit à Timothée, mais je t'en conjure devant Dieu. C'est des paroles très fortes, je t'en conjure. Il supplie ce jeune pasteur, mais dit ces choses, censure, exhorte, reprend, parce qu'un jour Dieu va juger les vivants et les morts. Et la prédication, c'est quelque chose d'absolument sérieux, parce que justement, ça nous permet de nous préparer à rencontrer le Seigneur. Alors on va voir ces sept textes que je vous encourage à méditer. Vous l'avez peut-être déjà fait. Le premier se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8. Alors, il y a tout un enseignement du verset 5 au verset 13, et je vous encourage à prendre ces lectures pour vos cultes personnels. Parce que quand même, on ne peut pas prendre ces textes à la légère, moi je vais les survoler, mais c'est à chacun de nous de méditer. Je ne sais pas comment vous faites votre culte personnel, mais je crois que c'est bien de prendre ces sept textes que je vais vous laisser pendant cette demi-heure qui va suivre, et d'en faire par chaque matin une méditation personnelle. C'est ce fameux contexte dans l'histoire du vous savez, ce centenier qui a fait une expérience extraordinaire, qui s'est entendu dire que même en Israël, les hommes n'avaient pas une si grande foi. C'est extraordinaire. C'était un officier de l'armée, un homme qui avait été enseigné à tuer, on ne va pas venir sur cette histoire, mais qui avait décidé d'avoir la foi. Donc vous connaissez cette affaire, il va être béni. Alors au verset 10, c'est à partir du verset 5, mais on va lire à partir du verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Vous y pensez à ce fameux repas, en fait ? Juste une parenthèse. Est-ce que vous savez qu'un jour, vous mangerez avec Abraham, Isaac, Jacob ? Vous y pensez ? Et avec tous les grands, Esther, Marie et toutes ces femmes et Ruth. Est-ce que vous y pensez ? Il y aura du monde, hein ? Ça ne sera pas le mariage à Lucas où on va être une centaine. Ça, il va y avoir du monde. Je ne sais pas qui c'est qui va préparer les tables, mais je vous assure que ça va être un grand repas. Oui, alors tout ça c'est réjouissant, mais regardez ce que Jésus dit. Mais, les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va ! Qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Nous avons l'habitude d'utiliser cette histoire pour parler de la foi. Et justement, le contexte, le premier contexte où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents, le contexte, c'est la foi. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ait une véritable foi. Et Jésus dit, vous l'avez lu avec moi, les fils du royaume. C'est qui les fils du royaume ? C'est les chrétiens. C'est les croyants. Jésus, alors il n'a pas dit tous les fils du royaume, mais il dit que malgré le fait qu'il y a des gens qui sont sauvés, il y aura dans le royaume des hommes, des femmes, qui eux seront éjectés de ce royaume parce qu'ils n'auront pas eu une véritable foi. Et la question qui nous préoccupe ce soir, si nous voulons être prêts et ne pas faire partie de ces gens qui connaîtront les grincements de dents, il nous faut une foi réelle. Ce que Dieu a dit, je le crois. Tout à l'heure, je discutais avec une jeune fille, je ne sais pas si elle est là. Oui, elle est là. Je discutais avec une jeune fille qui me disait, voilà, j'ai discuté avec un chrétien, voilà, il croit en Dieu, mais il dit que le baptême, ce n'est pas utile, ce n'est pas la peine de prendre le baptême, ceci. Oui, voilà, ça c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Il croit en Dieu, mais il n'a pas la foi. Si Jésus, lui, le Saint, qui n'avait pas besoin de prendre le baptême, parce qu'il savait bien quelqu'un qui n'avait pas besoin de prendre le baptême, c'est bien lui. Mais il l'a pris, il s'est identifié au fils des hommes, il s'est fait homme, donc il a montré l'obéissance. Donc quand on commence, vous voyez, à négocier et ceci et cela, on va négocier toute la parole de Dieu. Voilà quelqu'un, mademoiselle, vous pourrez lui dire de ma part que ce garçon n'a pas la foi. Il croit en Dieu, mais il n'a pas la foi. C'est sévère cette affaire, c'est dans un contexte extraordinaire d'un officier qui a fait une expérience merveilleuse parce que ce que Dieu dit, il le croyait. Est-ce que vous croyez tout ce que Dieu dit ? Mais parlez de l'enfer, vous savez qu'il y a de plus en plus de gens qui ne croient pas à l'enfer, même dans nos églises. Je ne sais pas si ça vous étonne, bien sûr qu'ici vous êtes habitué à ce qu'on soit dans la saine doctrine, mais laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup d'églises où on ne croit pas à l'enfer, on est en train de discuter la parole de Dieu, et ça ouvre la porte à tout un tas d'âneries pas possibles. Ce matin, je recherchais un petit peu sur la doctrine du purgatoire. Comment c'est venu ? Pour vous donner une idée, parce que c'est bien de comprendre. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, tapez doctrine du purgatoire sur Google, et vous allez voir un petit peu comment c'est vicieux. Ça a mis 600 ans presque pour être accepté dans une certaine église. 600 ans de négociation pour être accepté. Vous savez le malheur qu'on a fait avec cette affaire. Vous voyez, quand on ne croit pas ce que Dieu dit, ce que Dieu dit, il l'a dit et il le fera. Et ceux qui ont une foi de patachon, ceux qui veulent ne croire que ce qu'ils ont envie de croire parce qu'ils se sentent supérieurs à la parole de Dieu, eh bien, ils vont faire partie de ces gens qui connaîtront les pleurs et les grincements dedans. Donc, la véritable foi, quand vous lisez la parole, ce n'est pas à vous de juger la parole de Dieu, c'est à nous laisser juger par la parole de Dieu. Alors, on pourrait dire des milliers de choses sur la foi. Mais, voilà, ce soir, répondez à cette question, est-ce que vraiment vous croyez tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu ? Est-ce que vous croyez ? Ou est-ce que vous tournez en dérision, Monsieur Gault, l'histoire de Jonas, c'est une blague. Il y a des gens qui parlent comme ça. On ne va pas prendre tous les textes bibliques, tout ce qu'on peut entendre sur la parole de Dieu. Ayez foi en Dieu. Croyez. Si vous êtes là, je pense que c'est pour cette raison. Non, vous êtes là ce soir parce que vous voulez une véritable foi. Et on voit aujourd'hui, les gens veulent de la religion, mais ils ne veulent pas de foi. Ils veulent de la tradition. De la tradition, ça s'appelait tradition évangélique, ou tradition catholique, ou tradition protestante. Les gens, ils sont énormément attachés à la tradition. Mais parlez-leur d'obéir. Parlez-leur de mettre leur vie en règle avec Dieu. Ils n'en veulent pas. Mes frères, le juste, il vivra par la foi. Deuxième lecture, c'est dans Matthieu au chapitre 13 et au verset 36. Vous méditerez cette affaire. Mais de toute façon, vous devez savoir si vous avez une véritable foi. Si c'est nécessaire, demandez un entretien avec votre pasteur, avec un des anciens. Demandez un entretien. Et vous verrez, il vous dira au bout d'un quart d'heure si vous avez véritablement la foi. Matthieu chapitre 13, verset 36. Vous y êtes ? Matthieu chapitre 13, verset 36, c'est la parabole de l'ivraie du champ. L'explication, on ne va pas lire la parabole en entier, on va lire l'explication. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent. Comme quoi, vous voyez que la foule a entendu un enseignement, mais que les vrais disciples, ils ont besoin d'explications. C'est peut-être un peu notre cas ce soir. Il y a la foule de gens qui entendent des choses spirituelles, et il y a des gens qui veulent des explications, qui, comme vous ce soir, viennent à l'église pour dire « moi, j'ai besoin d'explications ». Les disciples s'approchèrent de lui et dirent « explique-nous la parole de l'ivraie du champ ». Il répondit « celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on l'achète au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, quel est le contexte ? Eh bien, c'est ceux qui commettent des scandales et ceux qui commettent l'iniquité dans l'Église. Ah bon ? Est-ce que c'est possible d'être dans une Église et en même temps de commettre des scandales, de commettre l'iniquité ? Eh bien oui. C'est triste, il n'y a rien de plus triste, mais on voit bien qu'à la fin des temps, tout sera mélangé. D'ailleurs, vous savez ce que Jésus un jour a dit à la fin de la parabole du sermon sur la montagne, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais nous avons fait ceci, nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé, donc ça ne s'adresse pas à des vrais chrétiens, ça. Nous avons prophétisé, mais ce n'est pas... Il ne faut jamais confondre le don et le fruit. Jésus a dit, un arbre, vous le reconnaîtrez au fruit. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose pour Dieu qu'on obéit à Dieu. Et Jésus a dit, c'est la fin, ben on y est toujours dans Matthieu, tiens. Gardez la page, c'est la fin du sermon sur la montagne. Donc ça se finit où ça ? Qui c'est qui peut m'aider ? Matthieu chapitre 7, verset 22. C'est important de le lire, parce que, il y a des gens qui disent, oui, dans l'Église, l'Église, elle est sainte. Eh bien, moi, je vous dis que oui, l'Église, elle est sainte, mais dans l'Église de la fin des temps, tout sera mélangé. Matthieu 7, 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Oui, oui. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Quand je lis ça, je pense toujours à ce verset où Jésus dit à vous tous, venez à moi. C'est vrai qu'on voit cette invitation d'une tendresse totale. Jésus dit à tous, venez à moi. Et là, on voit que Jésus va être obligé de dire à une catégorie de personnes, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est une des paroles les plus terribles. Je ne sais pas ce que vous avez envie d'entendre quand vous passerez devant Dieu. Vous y pensez à ce jour ? Vous savez, moi, des fois, on me dit ceci. Vous savez, on dit des choses sur vous, non ? On pense certaines choses sur vous. Il y a des gens qui pensent du bien. Il y a des gens qui pensent du mal. Est-ce que ce n'est pas vrai ? Non ? S'il y a des gens qui parlent de vous, oui, ah, il est bien, oh non, il est bête. Non ? Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? On pense, mais ce que les gens pensent, bon, c'est une chose. Mais Dieu sait exactement ce qu'il devra nous dire lorsqu'on passera devant lui. Et voyez, il y a, à la fin des temps, vous retrouvez ce méli-mélo, ce mélange total. On voit bien qu'il y a des gens dans l'Église qui sont là, mais qui ne vivent pas cette véritable vie que Dieu leur demande. Ils commettent l'iniquité, ils commettent des scandales, et on en voit, hélas, des scandales. Il n'y a pas de scandales dans les Églises ? Vous ne trouvez pas qu'il y en a ? On en entend, je parle des Églises de toutes les dénominations. Malheur à ces gens qui commettent des scandales. Parce que c'est triste que les gens ne veulent pas de Dieu. Mais c'est quand même encore plus grave quand on les éloigne, nous, de Dieu. Et je pense que nous avons un témoignage à donner de ne pas éloigner les gens de Dieu. Que les gens se convertissent ou qu'ils ne se convertissent pas, ça c'est leur affaire. Mais au moins que nous ayons l'intelligence de ne pas, nous, les éloigner de Dieu par un comportement qui ne glorifie pas le Seigneur. Voilà, ceux qui commettent l'iniquité. Vous avez vu, Jésus dit qu'il mettra dehors ceux qui commettent des scandales. Il y a des gens qui disent, oui, c'est pas grave, ce qu'on fait dans les églises, il y a tel pasteur qui divorce, il continue à prêcher, c'est pas grave, les gens, retenez ce qui est bon, c'est comme le poisson, voilà, on retire l'arête, on mange la chair, vous voyez, on en arrive à des bêtises, mais moi je lis que ceux, vous l'avez lu avec moi, ceux qui commettent des scandales et ceux qui commettent l'iniquité, Jésus les jettera dans les temps ardents de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà, on peut dans l'Église du Seigneur vivre dans l'excitation, chanter des cantiques et en même temps vivre dans le péché. Dans la véritable Église du Seigneur, on recherche la vraie piété. Je crois que ce soir, c'est une des raisons de notre présence. On est venu prier, on est venu chanter et louer le Seigneur, mais on est venu également entretenir notre vie spirituelle et dire, voilà Seigneur, parle-moi, oui, je veux être prêt. Il y a des endroits, mais c'est pas grave. Moi, j'étais dans une église, j'étais en congé, à trois reprises pendant la prédication, trois reprises, au début, au milieu et à la fin, le pasteur, je ne vous dirai pas dans quelle dénomination j'étais, le pasteur a dit à trois reprises, les chrétiens, à partir du moment où ils ont pris le baptême, c'est pas grave, quoi qu'ils fassent, ils sont sauvés. Eh bien, voyez, moi, c'est pas ça que je lis. Moi, je ne sais pas comment vous lisez la Bible, mais moi, je ne lis pas ça du tout. Moi, je lis qu'il y a des chrétiens que s'ils commettent l'iniquité, eh bien, ils connaîtront les pleurs et les grincements dedans. Et je vous rappelle que c'est une expression qui n'est utilisée que par le Seigneur Jésus et qui fait quand même réfléchir. Je ne sais pas si vous avez envie de connaître ça, mais moi, non, surtout pas. Voilà, dans la maison du Seigneur, on veut la sainteté. Vous êtes d'accord ? Voilà, dans la maison du Seigneur, on recherche la sanctification. C'est quelque chose de vital. Voilà, je m'appliquerai à la sainteté. Et si je commets un péché involontaire, eh bien, je vais tout faire pour le régler. Il y a des gens, oh, c'est pas grave, on ne va pas. Mais moi, je l'entends, ça, mais je l'entends lui-même ici. Moi, je trouve que quand on commet un péché, quel qu'il soit, on s'arrange pour le régler. On ne dit pas, bon, c'est pas grave, un de plus, un de moins. Vous voyez ? Non. Un péché, c'est à cause quand même du péché que Jésus-Christ a dû mourir sur le bois de la croix. Ne l'oublions jamais. Oui, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. C'est pour ça que nous devons prier, pour savoir exactement où nous en sommes. Parce que ces textes, ils n'ont pas été donnés n'importe comment. Ils ont été donnés pour qu'on y réfléchisse. Croyez-moi. Troisième texte, Matthieu chapitre 13, verset 49. C'est la parabole du filet. On va lire à partir du verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses ? Oui, répondirent-ils. Alors, je vous pose la question à vous ce soir. Avez-vous compris toutes ces choses ? Les avez-vous comprises ? Est-ce qu'on comprend tout ? Allez, aidez-moi. Non, je pense que des fois, on n'a pas tout compris. C'est pour ça qu'on a besoin vraiment d'explications. Parce que je crois que beaucoup de gens pourraient dire, mais est-ce que vous avez compris ? Oui, on a très bien compris. Mais le fruit n'est pas là, ce qui prouve bien qu'il y a un gros décalage entre nos propos et ce que l'on a véritablement compris. À la fin du monde, les anges seront délégués par Dieu pour séparer les méchants d'avec les bons. Alors, qui sont les méchants ? J'en ai souvent parlé parce qu'il y a beaucoup de confusion dans les églises par rapport à cette affaire de méchants. Il y a les pécheurs, c'est-à-dire que les gens qui ne connaissent pas Dieu, vous leur parlez de Jésus, ils ne comprennent rien. Mais après, il y a les méchants ou les impies et les chrétiens. D'ailleurs, il y a un texte où Jésus dit, mais s'il est difficile au juste, si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Donc il sépare bien le méchant du pécheur. Et le méchant, ce sont des chrétiens qui n'ont plus de communion avec Dieu. D'ailleurs, quand il dit que le méchant retourne à Dieu, on voit dans la parole de Dieu ces textes où Jésus explique bien la différence entre le méchant et le juste. Donc, les méchants, ce sont des chrétiens qui n'ont pas de piété. Est-ce que ça arrive, ça, qu'il y ait des chrétiens qui n'aient aucune piété ? Ah oui, il y a des chrétiens, moi je vous assure. Moi c'est peut-être la chose qui m'a le plus choqué, quelques mois après ma conversion, de voir des chrétiens qui sont là à l'église, qui chantent, qui prennent la Sainte-Seine, qui même parfois servent Dieu. Moi je discutais hier avec ma fille, elle me parlait d'un chrétien qu'elle connaît dans la ville où elle est. Mais c'est un chrétien, il est capable de vous en mettre plein la vue, et en même temps, il n'a aucune piété. Voilà, c'est ce que Jésus dit, les méchants, ils seront épargnés de cette grâce. Quelle misère. Oui, et je crois, mes frères et sœurs, qu'il faut absolument y réfléchir. C'est quoi la piété ? Eh bien, la piété, c'est de l'obéissance. C'est l'obéissance à Dieu. Vous connaissez ces textes ? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand il est dit, mais prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de Dieu, n'apporte pas le sacrifice des insensés, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Et c'est quoi le sacrifice des insensés ? C'est-à-dire que je fais quelque chose, je fais un sacrifice, mais j'obéis pas. Et c'est pour cela que des fois on peut dire, oh mais moi je me souviens, ici ça s'est passé, vous allez comprendre vite, il y a eu un pasteur qui prêchait très bien il y a quelques années, et bien c'est pas parce qu'on prêche bien qu'on obéit à Dieu, c'est pas parce qu'on joue bien du piano qu'on obéit à Dieu, ainsi de suite. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est ce que Jésus est en train d'expliquer. Il y a une véritable piété, elle n'est pas liée à un service, elle est liée à une véritable obéissance, car l'obéissance est plus importante que tous les sacrifices. Avez-vous compris ? D'ailleurs, on pourrait lire un texte dans 2 Thessaloniciens qui concerne le retour du Seigneur. C'est bien parce que ça explique bien qui Jésus va revenir chercher. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1er, et au verset, on peut lire à partir du verset 5, c'est très bien expliqué en fin de compte. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 1er, verset 5. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux, qu'est-ce qui est écrit dans votre Bible ? Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, etc., etc., etc. Ceux qui n'obéissent pas. Voilà qui sont les méchants dans la parole de Dieu. Ce sont des croyants qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup touché quand j'ai lu l'évangile de Jean. C'est quand il a écrit « Il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas ». Moi, c'est une phrase qui m'a énormément touché. Et c'est vrai qu'ils avaient une religion éclatante, mais ils ne connaissaient pas Jésus qui était là au milieu d'eux. Et on pourrait le dire aujourd'hui dans beaucoup d'églises, mais il est au milieu de nous et beaucoup de gens ne le connaissent pas. La preuve, c'est qu'ils ne lui obéissent pas. Ils ne veulent pas le connaître. Quand plus vous le connaissez, je ne sais pas vous comment vous vivez votre foi, mais plus vous le connaissez, plus vous avez envie de lui obéir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Franchement, plus vous le craignez, dans le bon sens, plus vous avez envie de lui plaire. On parlait hier soir avec ma fille de la définition de la perfection. Et la Bible en parle. Quand Dieu dit à Satan, « Tu as vu mon serviteur Job, comment il est intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et vous avez là la définition de la perfection biblique. Bon, pour nous, la perfection, c'est sans tâche, etc. Mais la perfection biblique, c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui respecte vraiment la parole et qui se détourne du mal. Voilà, parce qu'il y a des chrétiens, ils croient en Dieu, mais je peux vous dire que le mal, ça leur est bien égal. Ils peuvent regarder des cochonneries sur Internet. Ils te disent, oui, mais c'est pas grave, Dieu purifie. Oui, Dieu purifie, tu vas voir. Vous allez voir comment Dieu va purifier ces gens-là. Je crois que c'est se moquer pertinemment de Dieu. La piété, c'est l'obéissance. Quand Jésus reviendra, il ne prendra pas ceux qui n'obéissent pas au Seigneur. Et je répète, ça sort de la bouche de Jésus lui-même. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent « Oh, mais Jésus, tout ce qu'il a dit, c'est que de l'amour, c'est que du pardon. Jésus n'a jamais jugé quelqu'un. Jésus était plein d'amour. » Oui, Jésus était plein d'amour, mais Jésus était plein de vérité aussi. Et l'amour, ça va avec la vérité. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Oui, je comprends pourquoi Dieu a dit « Exerce-toi la piété ». On continue parce que le retourne Matthieu, chapitre 22, versets 5 à 14. Mais c'est des textes qu'il vous faut relire. C'est la parabole du festin des noces. Il faudrait lire du verset 1 au verset 14. On va lire du verset 11. Mais lisez ces textes en entier. Nous, parfois, dans l'évangélisation, on parle de ceux qui ont été invités, de ceux qui refusent l'invitation, parce qu'en fin de compte, cette parabole insiste beaucoup sur ceux qui ont refusé l'invitation. Mais nous, on va parler de quelqu'un qui a accepté l'invitation. Matthieu chapitre 22, verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noce. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noce ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Donc là, la parabole du festin des noces, où justement tout est prêt, sauf certaines personnes, du côté de Dieu, tout a été prêt. Tout est prêt. Personne ne peut dire à Dieu, oui, mais tu aurais dû faire ceci. Jésus a tout accompli, tout est prêt. Et là, nous avons un cas de figure de quelqu'un qui a accepté l'invitation, il a accepté, c'était important pour lui d'accepter l'invitation de Jésus, mais justement, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure avec cette jeune fille, avec Esther, c'est important de comprendre qu'il ne suffit pas d'accepter l'invitation, il faut accepter les conditions. Et il y a des gens qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu avec leurs conditions. Moi, je veux bien être chrétien, mais la croix, c'est pas la peine. Moi, la croix, Jésus l'a portée pour moi, c'est pas la peine que moi je la porte, mais si vous saviez, moi, tout ce que j'entends. Il est rentré avec sa tenue à lui, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se revêtir de Christ, parce que cette fameuse robe nous parle également de la sainteté. Il y a des gens qui veulent rentrer dans le royaume de Dieu sans sanctification. La Bible dit « Revêtez-vous de Christ le Seigneur ». On n'entre pas dans le royaume de Dieu avec ses idées, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Une fois, moi, je me souviens de ce pasteur qui est passé par une dépression pas possible. Il me dit « Voilà, les chrétiens dans l'église, ils veulent un débat pour savoir si on ne pourrait pas faire comme ci, si on ne pourrait pas faire comme ça, si on ne peut pas changer ceci ». Je dis « Mais ne t'as pas accepté de débat, ça n'a aucune raison d'être. Dans l'église, on prêche la parole de Dieu et ça suffit. Ce n'est pas la peine de faire un grand débat sur ceci et sur cela. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ceci ?» Franchement, c'est la preuve qu'on est. On est en train de s'éloigner de la parole de Dieu. Cette parole, elle est claire. Le Seigneur Jésus dit que si on ne veut pas connaître les pleurs et les grincements dedans, il faut revêtir l'habit de noces. Il faut accepter la sanctification. Répondre à l'invitation, ça ne suffit pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit beaucoup de gens qui prennent le baptême, mais qui ne se repentent pas. Ils ne se repentent pas. Ils ne se convertissent pas. Alors, ils ont fait des expériences. En veux-tu, en voilà. Ils ont été guéris, délivrés. Oh, alors, quand ils témoignent, ça vous fait verser quelques larmes. Et vous êtes là, oh, c'est merveilleux. Quelle expérience! Il était drogué, il a été délivré, il vivait ceci, il a été délivré, c'était un voleur, il a été délivré, tout ça. Puis 6 mois après, vous ne voyez plus le bonhomme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par la conversion. Et tant mieux pour les expériences. Que Dieu nous accorde la grâce de faire de nouvelles expériences. Et je crois que c'est sa volonté. Mais mes frères et sœurs, ce ne sont pas les expériences qui permettent aux hommes de rester fidèles à Dieu. Ce qui permet aux hommes de connaître les noces de l'agneau, c'est qu'ils acceptent les conditions. Mes frères et sœurs, acceptons les conditions du Seigneur Jésus-Christ. Quand on entre dans le royaume de Dieu, on revêt Christ. Qu'est-ce que Dieu demande? Je le fais. L'Église qui est prête, c'est l'Église qui s'est revêtue de la parole du Seigneur. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai hors de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Revêtir Christ, c'est je cherche de plus en plus à lui ressembler. Est-ce que vous trouvez que vous ressemblez au Seigneur Jésus? Pas assez? Moi non, je trouve que pas assez. Franchement, même des fois j'en ai honte, je ne sais pas vous. Franchement, dès qu'on commence à aborder ce sujet, on se dit, oula, on est quand même loin du modèle. Enfin, moi, je trouve que je suis loin du modèle. Mais quand même, on peut y aspirer et dire, dans mes propos, dans ma façon de faire, je vais m'appliquer de plus en plus à ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Quand tout temps, tes vêtements soient blancs. Mes frères et sœurs, la sanctification, c'est sérieux. Ce soir, votre présence me montre, me prouve que c'est votre désir de dire, voilà, moi, je veux davantage connaître le Seigneur. Moi, c'est pas, je veux pas rentrer avec mes habits à moi, parce qu'il y a des gens, ils pensent que leurs œuvres, par exemple, il y a des gens qui veulent rentrer par les œuvres. Moi, je serai sauvé par les œuvres. Et combien le pensent? Peut-être pas ici, j'espère pas. Mais il y a des gens ici. Voilà, ça c'est leur robe à eux. Elle est plus belle que cette simple robe blanche que le Seigneur nous demande de poser. Bien sûr que quand les gens refusent de mettre l'habit de noce, c'est que pour eux, ils ont un habit meilleur. Et il y a des gens qui pensent que les œuvres, c'est meilleur que la foi. Mais le juste, il n'est pas sauvé par les œuvres. Le juste, il est sauvé par la foi. Et la Bible dit « Malheur à ceux qui ont suivi la voie de Caïn ». Vous savez comment Caïn a voulu plaire à Dieu et vous avez vu comment ça s'est terminé. Mes brebis, elles connaissent ma voix. Et ce que je vous dis, si vous êtes converti, vous ne pouvez pas le discuter. Vous ne pouvez pas dire « Oui, mais il a dit ça, mais il faut que je... » Moi, ça arrive des fois. « Monsieur Hugo, je veux vous voir. » Je dis « Ça ne sert à rien. » C'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas mes idées que je suis en train de développer. Ce que je vous dis, c'est la parole du Seigneur. Cinquième cas, Matthieu 24, verset 42. Matthieu 24, verset 42. Là, ça s'adresse... surtout au pasteur. Il est parlé des serviteurs qui donnent la nourriture. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Nous sommes en train, spirituellement, de partager un repas. Matthieu 24, 45. Je répète, ça s'adresse surtout à ceux qui ont la charge d'apporter la nourriture. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même « Mon maître tarde à venir » et s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. L'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le contraire, bien sûr, de l'honnêteté. Là, je pense que, franchement, c'est pour tous les chrétiens, bien sûr, l'hypocrisie, mais c'est surtout par rapport au pasteur. Je le pense vraiment, à tous ceux qui ont la charge d'apporter la parole de Dieu. Il peut y avoir une méchanceté. Vous voyez, il est dit, celui qui frappe ses compagnons. J'ai regardé dans le grec, c'est frapper verbalement avec la langue. Est-ce que vous savez qu'on peut faire vraiment du mal avec les paroles? Est-ce que vous le savez? Le mal qu'on peut faire... Et c'est exactement le cas de figure, le mal qu'on peut faire à quelqu'un en utilisant sa langue. D'ailleurs, ils ont dit de Jérémie, se sont réunis un jour, vous connaissez le livre de Jérémie, tuons-le avec la langue. Vous voyez comme quoi on peut faire énormément de mal avec des paroles, il n'y a pas que les gifles et les coups de poing qui font du mal. Je pense qu'on peut vraiment blesser des gens. Et ce texte s'adresse au pasteur qui... pour des raisons ou pour une autre, il y a mille explications, je n'ai pas le temps d'en parler, eh bien, s'autorisent à faire du mal avec leur langue. Et je crois que la responsabilité d'un pasteur, d'un ancien, de ceux qui ont la charge d'âme, c'est de nourrir les gens, de leur faire du bien, même si la parole de Dieu est sévère, comme ça pourrait être interprété ce soir, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que nous entendions la vérité. Dans l'Église du Seigneur Jésus, il n'y a pas d'hypocrisie. Dans l'Église du Seigneur, il doit y avoir de la sincérité. Je dois être sincère. C'est sérieux, les choses spirituelles. Est-ce que c'est sérieux? Ah, ne me dites pas comme cette jeune fille un jour qui me dit « Oh, monsieur Gau, non, vos prédications, ça me remettra en question, moi, ça me va pas. Je vais trouver une autre église. » Et un jour, elle revient et me dit « Monsieur Gau, j'ai trouvé une autre église. Dans cette église, on ne fait que danser. » Je lui dis « Mais danser, c'est pas danser. » Ah, elle me dit « On parle de Jésus, mais c'est bien, on danse. » Et un jour, 2 ans après, elle m'appelle, elle était au Mirail, elle était enceinte d'un chrétien. Elle n'était pas mariée, elle était là, il l'avait tapé et tout. « Monsieur Gou, je vous en supplie, venez me chercher, je suis là, j'ai vite trouvé quelqu'un pour l'héberger. » J'ai dit, « Voyez, danser dans une église. » Et je dis pas ça, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais dans une église, dans l'église du Seigneur, on est sérieux. On réfléchit ces choses-là à 7 reprises. Vous croyez que c'est le hasard? Si Jésus a dit 7 fois, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et chaque fois, c'est adressé pour les chrétiens, c'est pas pour les païens. Les païens, c'est une affaire réglée qui connaîtront les pleurs et les grincements dedans. C'est même pas la peine d'y réfléchir. Mais nous, les chrétiens, nous devons veiller à faire en sorte que nous ne soyons pas des hypocrites. Ce qui a perdu ce pasteur, là, dans cette parabole, c'est l'hypocrisie. Ou alors on veut plaire aux gens, voilà, si on ne leur dit pas trop, si on ne parle pas trop de l'enfer, peut-être qu'on va les gagner. C'est l'hypocrisie, ça. Je crois qu'il faut parler du ciel et il faut parler de l'enfer. Oui ou non? Ou est-ce que vous voulez qu'on parle que du ciel pour faire plaisir aux gens? Mais vous croyez que Dieu va bénir ce genre de prédication? Vous savez, Dieu bénit que sa parole. Et si on commence à égratigner un peu sa parole, eh bien Dieu ne la bénira pas. On a besoin d'entendre la vérité. Dans l'Église du Seigneur, on prend à cœur tout ce qui est écrit. On ne s'autorise pas de la démagogie. La démagogie, ça c'est bien politique. Ça c'est clair qu'ils ont pris les cours, ça c'est sûr. Mais dans le royaume de Dieu, la démagogie, ça n'existe pas. Dans le royaume de Dieu, on veut entendre la vérité. C'est important, mes frères et sœurs, que nous ne soyons pas des hypocrites et que nous fassions ce que Dieu nous demande. 6e texte, Matthieu 25, verset 24. Matthieu 25, c'est la parabole des talents. Alors, il faudrait lire du verset 14 au verset 30. On va lire à partir du verset 25. « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé, que j'amasse ou je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent. » Et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Le contexte, donc, c'est le chrétien paresseux. Alors là, c'est une affaire, moi, qui m'interpelle énormément, parce que même dans notre assemblée, il y a des chrétiens paresseux. Moi, je vous avoue que ça me fait peur. Ça me fait peur. Ça me ferait beaucoup plus peur si je n'en parlais pas, parce que je sentirais ma responsabilité. Mais comme j'en parle régulièrement, je me sens dégagé de ma responsabilité. Mais il y a dans l'Église du Seigneur de plus en plus de chrétiens qui s'autorisent, au nom de 1000 prétextes, à ne pas faire ce que Dieu leur demande. Parce que c'est Dieu qui donne des responsabilités, c'est Dieu qui donne des talents, c'est Dieu qui vous met à cœur ceci, à cœur cela. Ce n'est pas possible. Si vous êtes chrétien, vous devez être amené à faire valoir le talent, les talents que Dieu vous a confiés. Et ça, c'est sûr, nous avons tous un talent. Dieu nous a donné une voix, par exemple. C'est une grâce que de pouvoir venir, comme tout à l'heure, et de combattre le bon combat de la foi. Est-ce que déjà venir à la réunion de prière, ce n'est pas faire valoir le talent de la voix que Dieu nous a donnée? Ah non, moi je ne prie pas. Et ne priez pas. Mais si c'est... Moi je crois que prier, c'est demander à tous les chrétiens. Oui ou non? Alors là, il y a de quoi étayer cette prédication et cet aspect. Mais mes frères et sœurs, le paresseux, il est vraiment en danger. Alors il peut trouver toutes les excuses qu'il veut. Moi ça, à la limite, ce n'est pas mon problème. Mais je pense que chacun d'entre nous, nous devons savoir ce que Dieu nous demande. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut que je porte du fruit. Est-ce que c'est important pour vous de porter du fruit? Est-ce que Dieu attend le fruit? Ben oui. Mais nous devons nous poser la question. Est-ce que je porte du fruit? Et je répète la question, est-ce que c'est important pour vous de porter du fruit? Ou est-ce que vous dites, bon, le fruit, c'est Dieu qui le porte. Vous voyez, bon, le fruit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'émonde et on le jette au feu. Vous connaissez Jean chapitre 15, méditez-le au cas où cette affaire vous préoccuperait. Un chrétien, lorsqu'il se donne à Jésus, lorsque nous nous sommes donnés au Christ, est-ce que le Seigneur ne nous a pas tout donné pour faire ce à quoi Dieu nous appelle? Moi, quand j'entends quelqu'un me dire, oh, moi, je peux rien faire, je sais rien faire. Mais vous croyez que ça honore Dieu? Quand quelqu'un se convertit, il doit faire quelque chose. Il a à cœur de faire quelque chose. C'est pas moi, comme je l'ai dit mille fois, de dire à quelqu'un, ah ben, tu chantes bien, va à la chorale, vous êtes comptable, ah ben vous serez le prochain trésorier de l'église, ça tombe bien. On n'a pas besoin d'un comptable, on a besoin de quelqu'un de spirituel, premièrement, pour s'occuper de la trésorerie de l'église. Et ça, c'est une parenthèse. Mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas aux hommes à diriger, c'est à chacun de nous de savoir ce que Dieu attend de lui. C'est pour ça que Jésus a dit à Marie, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la meilleure part. Pourquoi? Parce que quand on se tient dans sa présence, Dieu va nous mettre à cœur certaines choses. Ça va être les enfants, ça va être la chorale, ça va être ceci, ça va être cela, ça va être d'accueillir les nouvelles personnes à la réunion. Est-ce que c'est important d'accueillir les nouveaux à la réunion? Non? C'est important ou c'est pas important? Est-ce que c'est important est-ce que Dieu peut mettre à cœur le ménage? Dimanche, il y a une jeune fille qui m'a dit, moi, monsieur Gou, écoutez, je pense que c'est la volonté de Dieu que je fasse le ménage dans l'église. Je me souviens, papa était, où j'étais pasteur, il y avait deux femmes très riches qui avaient de l'argent, qui avaient des femmes de ménage pour chez elles, et je vous assure, elles avaient les moyens. Eh bien, Dieu leur avait mis à cœur de faire le ménage. Et vous aviez ces deux femmes super distinguées qui arrivaient avec leur super bagnole, et elles faisaient le ménage à l'église parce que Dieu leur avait demandé. Moi, je trouvais ça beau. Et elles faisaient ce que Dieu leur demandait. Voilà. Dieu aurait pu leur demander autre chose. Ce n'est pas une question, vous savez, de qualité, de valeur. Il y a la première place à celui qui va. Le ménage, ah, c'est le plus bas. Après, il y a le plus haut, ah, c'est faire le café pour les hommes. Après, il n'y a pas de hiérarchie dans le royaume de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui font ce que Dieu leur demande. Et quand même, ça vaut la peine d'insister quand même. Parce que quand même, les chrétiens paresseux, ils ont du souci à se faire quand même. Et si vous ne faites rien, mettez-vous à genoux, chez vous, et dites, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ne faites pas comme, oh, moi je fais l'accueil, je veux dire, il y a des choses, on le fait tous, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Mais demandez au Seigneur, ce n'est pas possible. Dieu vous mettra à cœur certaines choses. Un chrétien, il a reçu, donc il doit, par exemple, combattre. On compte sur lui pour la prière. Vous ne croyez pas qu'en Égypte, en ce moment, les chrétiens, ils ont besoin de nous? Est-ce que les chrétiens égyptiens ont besoin de nous en ce moment? Ou est-ce que vous dites, oh, qu'ils se débrouillent, c'est leur problème? Moi, je crois qu'on doit prier pour les chrétiens en Égypte. En Syrie, est-ce que l'Église n'a pas besoin des chrétiens de métropole, d'ici? Vous ne croyez pas qu'ils ont besoin de nous? Oui ou non? Eh oui? Ah, vous croyez? Eh bien, c'est ça, faire valoir le talent. Seigneur, bénis l'Église en Syrie. Il y a plein d'églises. À Homs, je crois qu'à Homs, il y a 64 églises. On est chrétiennes. Comme par hasard, elles ont presque été bombardées, toutes. Vous voyez? Ils n'ont pas manqué, là. Est-ce que Dieu peut pas bénir ces chrétiens? Oui, ces chrétiens, peut-être, sont découragés. Et Dieu a besoin de vous. C'est peut-être pour l'évangélisation, le dimanche après-midi. Moi, en ce moment, je ne peux pas venir le dimanche après-midi. Je vous assure, c'est vrai. Si vous voyez ce que la neurologue m'a écrit, vous vous diriez, monsieur Gaud, ne prêchez pas, ne prêchez plus. Mes frères et sœurs, on doit faire ce que Dieu nous demande. Peut-être que Dieu vous attend pour l'évangélisation. Là, c'est l'édification. C'est vrai que c'est un peu pour nous. C'est un peu pour notre bien, l'édification. Mais l'évangélisation, est-ce que c'est pas bien qu'on... Est-ce que c'est pas là que Dieu peut nous attendre? Moi, je vous assure, mes frères et sœurs, ça vaut la peine d'y réfléchir. Serviteurs paresseux et inutiles, ils seront jetés ils connaîtront les pleurs et les grandes semaines dedans. Le septième texte. Luc 13. Dans Luc chapitre 13, il y a ce dernier texte où Jésus parle des pleurs et des grincements de dents. Alors vous le méditerez parce qu'on n'a pas le temps de trop y réfléchir. Mais quand même, Luc 13, verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Amen. Voilà le septième texte. Quel est le contexte de ce texte? Eh bien, on refuse le chemin étroit. Oui, il y a un chemin étroit. La vie avec Dieu, il y a le chemin large et spacieux du monde, on fait ce qu'on veut, et puis il y a le chemin étroit. Le chemin étroit de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Un chemin large et spacieux, plein de ténèbres et de misère, ou un chemin étroit, plein de miséricorde, de vie, de lumière? Qu'est-ce que vous préférez? Mais bien sûr, de toute façon, le chemin étroit, c'est un chemin de grâce. C'est pour vous dire que les gens sont compliqués, c'est que les gens sont vraiment tordus. Parce que là, on prêche l'évangile, entrez, la porte est ouverte, entrez, venez, convertissez-vous, donnez votre cœur à Jésus. Et là, qu'est-ce qui est dit? Et là, quand la porte sera fermée, les gens, ils voudront rentrer. Non, mais on marche sur la tête. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous dites jamais, convertissez-vous, le Seigneur va bientôt revenir. Si vous devez mourir, vous ne vous rendez pas compte, etc., etc. Enfin, on le présente de mille façons, mais la porte est ouverte. La porte est ouverte, les gens, ils ne veulent pas rentrer. Et quand la porte sera fermée, les gens, ils voudront rentrer. Ça vous montre comment le cœur de l'homme est compliqué. Mais une chose est sûre, la porte est encore ouverte. Et un jour, la porte sera fermée. Et quand la porte sera fermée, laissez-moi vous dire que ce ne sera pas marrant pour les rétrogrades ou les chrétiens qui n'auront pas pris à cœur ces choses qu'on est en train de partager. Dans le royaume de Dieu, le chemin, il est droit. On marque, voilà, c'est écrit. Moi, j'ai du mal, j'ai de plus en plus de mal à voir les païens, non, des chrétiens qui discutent la parole de Dieu. Moi, je vous assure, ça m'incommode parce que je vois bien que ces gens-là ne veulent pas obéir à Dieu. Il n'y a rien de plus simple. 1 + 1, ça fait 2. Quand vous avez 37 ou quand vous avez 41, même quand vous avez la fièvre, 1 + 1, ça fait 2. Il y a des gens, quand ils ont spirituellement de la fièvre, je vous assure que 1 + 1, ça ne fait pas 2. Ça fait 11 pour beaucoup. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a avertis. Il nous a laissé sa parole. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pour beaucoup de chrétiens, c'est écrit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'auront pas pris à cœur ces choses qu'on vient de partager. Vous voyez, ça fait 42 minutes, 46, je ne sais rien, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que nous disons, voilà, moi je sais ce que j'ai à faire. Moi je veux une véritable foi qui plaise à Dieu. Je veux obéir à la parole de Dieu. Je ne veux pas pratiquer l'iniquité. Je veux véritablement marcher dans la sainteté. Je ne veux pas avoir l'apparence de la piété. Voilà, je résume la prédication. Je ne veux pas oublier qu'il est important de vivre dans la sanctification. Je veux m'appliquer à être sincère, à ne pas être un hypocrite. Voilà, tu l'as dit, je le fais. Je veux porter du fruit. Je ne veux pas être un chrétien paresseux. Je vous assure, mes frères et sœurs, ça va être la rentrée. Demandez au Seigneur. Il va vous mettre quelque chose à cœur. C'est obligatoire. Quand je vois mon monsieur Galifot qui a plus de 70 ans et qui continue de temps en temps la nuit à parcourir ces quartiers malfamés de Toulouse pour aller évangéliser les filles de la rue, moi je trouve ça formidable. Oui ou non? En fait, de toute façon, c'est un homme, il fait ce que Dieu lui demande. Moi je crois qu'on peut admirer ces gens-là qui ont vraiment toujours à cœur, et c'est pas possible. Si vous vous mettez à genoux dans votre chambre et dites « Seigneur, je t'en supplie, montre-moi », vous croyez que cette prière, Dieu va pas l'exaucer? Si vous dites au Seigneur « Seigneur, je veux gagner au loto », là je vous le dis, vous gagnerez pas. Ça c'est sûr. Mais si vous dites au Seigneur « Montre-moi quelle est ta volonté, montre-moi ce que tu veux que je fasse », il vous le montrera. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Alors on va prier quelques instants. Et Seigneur, fais-moi grâce. Je veux marcher sur ce chemin droit. Je veux pas être un paresseux. Je veux pas être un hypocrite. Je veux porter du fruit. Est-ce que vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? C'est important, croyez-moi. C'est vraiment important que nous comprenions ces choses. Seigneur Jésus, c'est toi le Seigneur, qui a utilisé cette expression et tu es le seul. Nous comprenons pourquoi, Seigneur, pour nous faire prendre conscience de la solennité de ces choses. Oui, un jour, tu jugeras les vivants et les morts. Et nous, nous voulons être de ceux qui prendront notre repas avec tous les rachetés. Nous voulons être de ceux qui connaîtront les noces de l'agneau. Seigneur, c'est ce pourquoi tu as donné ta vie au calvaire, pour que tous les hommes soient sauvés. Seigneur, donne-nous d'être sérieux avec ces choses, afin que notre foi, notre vie spirituelle soit à la gloire de ton nom. Tu nous connais, Seigneur. Tu sais où nous en sommes. Tu savais qui viendrait ce soir. Tu sais qui peut-être est tombé dans la paresse ou dans l'hypocrisie. Seigneur, tu es un Dieu de délivrance. Et ce soir, je te prie pour celui qui serait concerné par un de ces aspects, afin que tu lui donnes la grâce de déterrer le talent et tout à nouveau de faire valoir ce que tu lui as donné le jour où il s'est tourné vers toi. Oui, Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons uniquement sur ta grâce pour aller plus loin. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Jésus. Amen.